السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، on s'est arrêté la dernière fois au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam place son armée à Uhud. Donc on a vu ce fameux trajet, ce qui s'est passé pendant ce trajet qui a duré une nuit entre la mosquée prophétique et la montagne de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé son armée en revue, il a renvoyé les compagnons trop jeunes, ceux qui avaient en dessous de 14 ans. Parmi ceux qui avaient en dessous de 14 ans, il a gardé uniquement Samurat ibn Jundub et Rafi' ibn Khadij, radiyallahu anhuma. Et il a renvoyé les autres, même si on a un doute sur le compagnon Al-Bara ibn Azib. On a vu également que pendant ce trajet, les hypocrites se sont révoltés et ils ont réussi à convaincre 300 personne de se retirer de l'armée du professeur Hassan. Donc le professeur Hassan était sorti avec une armée de 1000 et il arrive à la montagne de Uhud avec une armée de 700 hommes, sachant que l'armée idolâtre qui va lui faire face sont de 3000 combattants, dont 2000 parmi ceux qu'on avait appelés les Ahabish. On avait expliqué, c'était une milice armée, le bras armé des Quraysh. Ala kulli hal, le professeur Hassan arrive à Uhud et il choisit l'endroit qu'il voulait lui. Il prend à revers le campement des idolâtres et il se place de façon à avoir la montagne de Uhud derrière lui et la ville de Médine, donc bien plus loin, mais face à lui. Et on a ce qu'on appelle Jabal al-Rumat à la gauche de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui ont déjà été sur place, il y en a quand on va faire l'Umra ou l'Al-Hajj et qu'on passe par Médine, on visite la montagne de Uhud. Ils peuvent un petit peu se schématiser les lieux. Et on voit que la montagne de Uhud, c'est une grande montagne. Et on a dit, ça va devenir... Le professeur Hassan se met à cet endroit-là, sur le flanc de la montagne, au pied de la montagne, pour que cette montagne soit un refuge au cas où. Et en même temps, il n'a pas choisi ce qui est le plus logique pour nous, c'est-à-dire de se mettre entre la ville de Médine et l'armée idolâtre. Pourquoi ? On a expliqué pour que justement, dans le cas où il y a une défaite musulmane, ce qui va être le cas, les musulmans n'aient pas comme réflexe de fuir à Médine. Puisque à ce moment-là, ce serait mettre la ville de Médine en danger. Alors que s'il y a défaite, les musulmans, l'armée musulmane va se réfugier dans la montagne de Uhud, c'est ce qui va être fait. Et ensuite, les idolâtres, ils ne pourront pas facilement attaquer la ville de Médine s'ils souhaitent l'attaquer, même après une défaite sur le champ de bataille de Uhud, parce qu'en attaquant la ville de Médine, ils savent qu'ils laissent derrière lui une armée dans laquelle il y a des survivants, etc., qui pourraient les réattaquer par derrière pour défendre leur ville. Donc c'est probablement ça le plan qui est fait à ce moment-là. On a expliqué que le professeur sallam a divisé son armée en deux. Donc du côté de la droite, il a mis Al-Mundhir ibn Amr à la tête de la moitié de l'armée. Et du côté gauche, vers Jabal al-Rumat, le mont des archers, il a mis Al-Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Et on s'est arrêté là la fois dernière. Les idolâtres, lorsqu'ils arrivent, ils prennent la place qui est la plus logique pour eux, c'est-à-dire ils se mettent face, ils se placent face à l'armée des musulmans. Donc ils ont la montagne de Uhud face à eux, l'armée des musulmans qui est au pied de la montagne de Uhud face à eux, et entre eux et l'armée des musulmans, vers leur droite, vers la droite des idolâtres, il y a ce qu'on appelle Jabal al-Rumat, le mont des archers, une colline qui est séparée de la montagne de Uhud d'à peu près 150 à 200 mètres. Cette colline, le mont des archers, elle se situe entre le positionnement de l'armée idolâtre et le positionnement de l'armée musulmane qui est au pied de la montagne de Uhud. Et donc cette armée idolâtre a la ville de Médine dans son dos. Et l'armée idolâtre a 3000 hommes, 3000 combattants, dont une cavalerie de 200 chevaux, c'est-à-dire 200 cavaliers qui sont à cheval, c'est une cavalerie. Et on sait que ça, dans une guerre, à l'époque, les guerres, c'était face à face. Ce n'était pas comme des jeux vidéo aujourd'hui, c'est dans les drones. Les gens, ils font la guerre aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte qu'ils font la guerre. Et ça leur permet de, malheureusement, de déculpabiliser. Non. De ne pas prendre conscience que c'est des vies humaines qui sont en jeu. Nous, on s'entraîne d'abord à jouer aux jeux vidéo, et après on passe au drone et tout ça, finalement c'est exactement la même chose. Non. Ala kulli hal. Une cavalerie, dans une guerre à l'époque, c'est terrible dans le sens où le cavalier, il a la supériorité d'abord de la hauteur, parce qu'il est sur une monture, il a la supériorité de la rapidité, parce qu'il peut galoper avec sa monture, et surtout quand c'est une grande... Là, on parle d'une personne à cheval, ce qu'il peut faire. Mais là, quand c'est une cavalerie de 200 hommes, ça veut dire qu'ils peuvent faire une attaque contre une armée d'hommes à pied et les décimer. Naam. Ala kulli hal, les idolâtres, ils étudient le positionnement et ils ont face à eux la montagne qui les bloque, d'une certaine manière. Pour eux, c'est une bonne chose. Elle les bloque eux, mais elle bloque aussi les musulmans. Ils se disent, mais pourquoi les musulmans, ils se mettent là? Sans aucun doute, cette idée a dû leur passer par la tête. Ils se sont mis pile à l'endroit, il n'y a pas de meilleur endroit pour nous. Ils ne peuvent pas s'enfuir, il y a la montagne derrière eux. Et nous, on est trois fois plus nombreux qu'eux, et on est devant eux, donc c'est soit nous, soit la montagne. Ils sont complètement fous. Mais en réalité, ça fait un autre effet aussi sur l'armée idolâtre. Il y a d'un côté cet effet de dire c'est du suicide, et d'un autre côté, le doute, comme ils l'ont eu à Badr, parce qu'à Badr aussi, ils étaient beaucoup plus nombreux, et ils voyaient cette armée de musulmans, malgré tout, ferme, qui attendait de pied ferme les idolâtres. Et il y avait une divergence dans l'armée entre ceux qui disaient comme Abu Jahl, innamahum akalatu jazur, c'est une bouchée de pain, on va en faire une bouchée de pain. Et il y avait les autres comme Umayr ibn Wahb al-Jumahi, quand il a fait son tour autour de l'armée et après autour des puits de Badr, il est revenu, il a dit, ce que vous voyez en face de vous, c'est ça. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de trace d'embuscade, j'ai tout vérifié, il n'y a rien. Et c'est là qu'Abu Jahl a dit, c'est une bouchée de pain, c'est bon. Et lui, qui est un expert militaire, Umayr ibn Wahb al-Jumahi, ce n'est pas pour rien qu'on l'a envoyé regarder, il dit, moi, je vois au contraire des chamelles qui transportent la mort certaine. Ces gens-là, s'ils n'ont prévu aucun renfort, s'ils n'ont prévu aucun piège, et qu'ils sont là, et qu'ils savent qu'ils sont trois fois moins nombreux que nous, et qu'ils attendent, ils savent qu'ils vont mourir. Ils se sont fait à l'idée qu'ils vont mourir. Et la mort ne leur fait pas peur. Ça veut dire que s'ils sont là, c'est pour en tuer le plus possible parmi nous avant de mourir. Et si chacun d'entre eux arrive à en tuer un seul, ça voudra dire que nous qui sommes une armée de 1000 hommes, les idolâtres à Badr, ils étaient 1000 hommes, nous retournerons chez nous, certes victorieux, mais amputés de un tiers de l'armée. Et donc on aura toutes ces familles endeuillées parce qu'on aura perdu 300 hommes. Donc réfléchissez-y à deux fois, est-ce que vraiment c'est une bonne idée ? Non. Et ici, en réalité, à Uhud, c'est exactement le même doute qui doit s'installer. Dans le sens où ils se disent, pourquoi, alors qu'il est arrivé avant nous, il aurait pu choisir notre place pour défendre sa ville, il choisit de se mettre pile à l'endroit qu'on aurait rêvé. S'il nous aurait demandé, on l'aurait supplié de se mettre là, pour le bloquer, pour le mettre en étau. Et donc, sans aucun doute, ils se posent des questions et des interrogations, surtout qu'ils savent. Maintenant, ils se méfient, puisqu'ils ont les conséquences de ce qui s'est passé à la bataille de Badr. Ils ont le résultat de la bataille de Badr. Donc, ils se méfient, et cette fois, ils ne vont pas faire comme à Badr, c'est une bouchée de pain, allons-y. Ils vont réfléchir. Et ils vont se dire, le seul moyen de se préserver et de prévenir toute chose qu'on n'aurait pas prévue, la chose qui dérange dans ce positionnement pour les idolâtres, c'est la colline, le mont des archers. Parce qu'elle est entre eux et l'armée des musulmans. Elle n'est certes pas devant eux, elle est un peu sur le côté, sur le flanc, mais en fait, ils réfléchissent et ils se disent, il y a cette colline qui gêne. Ou peut-être que le prophète, il a choisi de se mettre à cet endroit-là parce qu'il veut utiliser cette colline pour quelque chose. Eh bien, il faut qu'on l'utilise avant lui. Alors, ils décident de mettre à la tête de leur cavalerie, de 200 cavaliers, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, il n'était pas encore converti à l'époque, mais il va bientôt devenir un des compagnons les plus fidèles du prophète, à l'époque, il est dans le camp des idolâtres. Ils mettent à la tête de cette cavalerie, Khalid ibn al-Walid, et ils lui disent, prends toute la cavalerie et vous vous mettez derrière la colline, le mont des archers, de façon à boucher le passage entre la colline et la montagne de Uhud. Peut-être que les musulmans se sont mis à cet endroit-là pour nous prendre par derrière en se cachant derrière la colline et venir par derrière. Au moment où on va les attaquer et les acculer contre la montagne, ils veulent peut-être nous prendre par derrière. Donc vous vous mettez là pour bloquer cet accès. Et aussi, en plus de bloquer cet accès, ça vous permettra, dans le cas où on perd la bataille, de les prendre par derrière. C'est-à-dire de traverser l'accès qui est entre la colline et la montagne et de prendre les musulmans par derrière. Donc Khalid ibn al-Walid, avec sa cavalerie, se place à cet endroit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit toute cette agitation, il voit que les idolâtres se sont mis devant lui, comme il le voulait. Mais il voit aussi que les idolâtres, cette fois, ils réfléchissent un peu plus qu'à Badr et ils envoient la cavalerie et ils la mettent de ce côté-là. Ils bougent ce passage. Et évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que c'est une menace pour son armée, cette cavalerie qui est placée à cet endroit-là. Donc, après réflexion et consultation, il va décider, il doit prendre une décision. Et ce n'est pas évident ici de prendre une décision. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit d'abord aussi penser à toute cette armée. Quand vous dites 200 cavaliers, ça veut dire qu'il reste combien en face de lui ? 2800. Il y a 2800 hommes devant lui et eux, ils ne sont que 700. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà avec 700, il doit réfléchir à un plan pour réussir à faire face à une armée qui est trois fois plus nombreuse que lui. Et en même temps, il doit prendre une décision à propos de cette colline et de cette cavalerie. Que faire pour éviter que ce soit une source de danger ? Il pourrait, par exemple, il avait coupé l'armée en deux. Et du côté de la colline, il avait mis Zubayr ibn al-Awwam. Donc il pourrait dire à Zubayr ibn al-Awwam et son groupe de se mettre de ce côté-là, mais le problème c'est que ça amputerait l'armée musulmane de la moitié des hommes. Donc il ne se retrouverait plus qu'avec 350 hommes face à 2800, c'est juste pas possible. Donc le professeur Hassan doit trouver une solution pour préserver cet accès entre le mont des archers et la montagne de Uhud, mais avec le moins d'hommes possible. Et là, ce que le professeur Hassan prend comme décision, et c'est la meilleure des décisions à ce moment-là à prendre, c'est qu'il choisit 50 hommes qui sont connus pour être de très bons archers, ils savent très bien tirer à l'arc et très bien viser. Il met à leur tête un compagnon, Abdullah ibn Jubayr, radiyallahu anhu, et il leur demande d'aller sur la colline, de se poster sur la colline. Et il leur donne une seule mission. Il leur dit, vous, votre mission, c'est de rester sur cette colline et vous n'attaquez personne. Les seuls que vous pouvez attaquer, c'est cette cavalerie. On peut citer par exemple trois versions qui sont toutes les trois jugées plus ou moins authentiques, entre Hassan et Sahih, yani, al-Muhim, donc elles sont acceptables et jugées fiables. D'abord, il y a la version de Ibn Ishaq. Ibn Ishaq nous dit que le professeur Hassan va s'adresser à ses 50 archers et en particulier à celui qu'il a nommé comme chef, le compagnon Abdullah ibn Jubayr, et il va lui dire « Indahi al-khayla anna bin nabl » Fais pleuvoir les flèches sur les chevaux pour nous protéger d'eux. C'est ça qu'il lui donne comme ordre. Toi, occupe-toi juste de la cavalerie. T'occupe pas de nous. La cavalerie, elle ne doit pas passer dans ce passage entre la colline et la montagne d'Ur. إِنْضَحِ الْخَيْلَ عَنَّ بِالنَّبْلِ لَا يَأْتُونَ مِنْ خَلْفِنَا Qu'ils ne viennent pas par derrière nous. Il faut qu'on soit rassuré de ce côté-là. On peut attaquer les idolâtres et pas s'inquiéter du fait que la cavalerie pourrait venir par derrière nous. Là, ce serait une catastrophe. C'est pourtant ce qui va arriver, mais on expliquera plus tard pourquoi. إِنْضَحِ الْخَيْلَ عَنَّ بِالنَّبْلِ Fais pleuvoir les flèches sur leurs chevaux, sur leurs cavaliers. لَا يَأْتُونَ مِنْ خَلْفِنَا Qu'ils ne viennent pas par derrière nous. إِنْ كَانَتْ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا فَثْبُتْ مَكَانَكَ لَا نُؤْتَيَنَّا مِنْ قِبَلِكَ Que ce soit pour nous ou contre nous, c'est-à-dire qu'on gagne la bataille ou qu'on la perde, إِنْ كَانَتْ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا Qu'on gagne ou qu'on perde. Ne vous occupez pas de ça. Qu'on gagne ou qu'on perde, أُثْبُتْ مَكَانَكَ Reste à ta place. Et lui ne va pas désobéir. Abdullah ibn Jubayr va rester sur le mont des archers jusqu'au bout. Il va même y perdre la vie, comme on le verra plus tard. Le professeur Sam s'adresse de manière générale aux archers, mais il s'adresse en vérité à lui. Tu as la tête, voilà les ordres que je te donne. Et lui, il ne va désobéir au professeur Sam. Mais les autres, on expliquera ce qui va se passer plus tard. Et donc, il lui dit à Abdullah ibn Jubayr, « Uthbut makanak »« In kanat lana wa alayna, uthbut makanak, la nu'tayanna min qibali » Qu'on gagne ou qu'on perde, reste à ta place. « La nu'tayanna min qibali » Qu'on ne soit pas dépassé ou pris à cause de toi, de par ton endroit. Si on perd, ça ne doit surtout pas être à cause de toi. Et pour que ce ne soit pas à cause de toi, occupe-toi de cette cavalerie. Et c'est très astucieux ce que le professeur Sam a fait. 50 hommes contre 200. Mais ces 50 hommes, ils sont placés en hauteur, ils sont sur une colline. Et ils savent très bien viser. Et donc, ils sont à l'abri de la cavalerie. Une cavalerie, c'est difficile pour eux de tirer avec des flèches. Ils ont leurs épées pour faucher les gens, mais ils ne peuvent pas se permettre de monter sur la colline avec leurs chevaux. Et s'ils voulaient le faire, ils devraient descendre de leur cheval, prendre et le temps qu'ils essayent de monter, ils ont reçu 4-5 flèches, donc ils seront morts depuis longtemps. Et s'ils essayent de passer, la même chose. Il y a 50 archers, ils font pleuvoir des flèches, c'est trop dangereux, ils ne peuvent pas passer. Donc c'est très astucieux ce que le professeur, avec très peu d'hommes, il a bloqué cet accès. Ça, c'est la version d'Ibn Ishaq dans les ordres que le professeur Hassan a donné. Il y a une version dans l'authentique de Bukhari où on nous dit que le professeur Hassan a dit aux archers « In ra'aytumuna takhtifuna at-tayr fala tabrahu makanakum hadha hatta ursila ilaykum wa in ra'aytumuna hazamna al-qawm wa wata'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaykum » Si vous nous voyez et que vous voyez les oiseaux venir et nous prendre, tellement c'est la défaite, on est pris un par un par des oiseaux, yani, tellement, c'est comme si c'était des oiseaux qui nous prenaient. Yani. فَلَا تَبْرَحُ مَكَانَكُمْ هَذَا Ne quittez pas votre place ici, là, sur le mont, حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ Jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un pour vous dire que vous pouvez descendre. Même si vous voyez qu'on est en train de mourir, qu'ils nous prennent un par un, ne venez pas yani, nous défendre. Restez là, sur la colline. Jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un qui vous dise, vous pouvez descendre maintenant. Wa in ra'aytumuna. Et si vous nous voyez, hazamna al-qawm wa wata'nahum. On a réduit ce groupe à la défaite. Wa wata'nahum. Et on les a écrasés. Fala tabrahu hatta ursila ilaykum. Ne quittez pas non plus l'endroit jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un qui vous dise que vous, maintenant vous pouvez quitter l'endroit où vous pouvez descendre. Troisième et dernier exemple de version qu'on peut citer sur les recommandations que le professeur Hassan a données ici, c'est la version qui est rapportée par Al-Hakim et dans le recueil Mousnad de l'imam Ahmad et qui est aussi utilisée par Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi dans ce Fath al-Bari, le commentaire de Sahih al-Bukhari, où il dit, le professeur Hassan dit aux archers, protégez notre dos, protégez nos arrières. In ra'aytumuna nuqtal, fala tansuruna. Protégez, défendez nos arrières. In ra'aytumuna nuqtal, si vous nous voyez nous faire tuer, fala tansuruna. Ne nous secourez pas, ne nous aidez pas. Ces versions, elles nous montrent que le professeur Hassan a été on ne peut plus clair. Et c'est important d'insister sur ça parce qu'il va se passer des choses par la suite qui vont montrer que فَلَا تَنْصُرُونَ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَ قَدْ غَنِمْنَا فَلَا تُشْرِكُونَ Et si vous voyez qu'on commence à prendre même le butin parce qu'on a gagné, ça veut dire que c'est tout. C'est la fin de la bataille ou presque la fin de la bataille. On commence à ramasser le butin. فَلَا تُشْرِكُنَا Ne nous associez pas. Restez à cette place. Tant que je ne vous ai pas dit, venez. Non. Idan, on voit ici que le professeur sallam a donné des recommandations strictes, claires, qui ne peuvent pas prêter à confusion. De façon à bloquer le passage entre la colline du mont des archers et la montagne de Uhud. Et de façon à protéger l'arrière de l'armée des musulmans d'une éventuelle attaque de la cavalerie. Et c'est doublement astucieux parce que d'un côté, ça protège les arrières, ça protège ce passage. Et d'une autre manière, ça paralyse la partie et le groupe le plus dangereux de l'armée idolâtre. Le groupe le plus dangereux, c'est qui ? C'est la cavalerie. S'ils foncent à 200 cavaliers contre l'armée des musulmans, c'est foutu. Et pourtant, même si le professeur Hassan voit qu'il ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants de pourquoi cette cavalerie est cet endroit, il s'imagine que peut-être qu'ils veulent passer par là et les prendre à revers par derrière, mais en tous les cas, en les occupant, en faisant diversion avec les archers, ils sont occupés avec les archers. Pendant que le professeur Hassan fait face à cette armée des idolâtres, même si l'armée des idolâtres est trois fois plus nombreuse, c'est un homme à terre contre deux hommes et quelques à terre. Et la cavalerie, elle est occupée de l'autre côté. Donc, d'une certaine manière, le professeur Hassan, en faisant ça, il paralyse la cavalerie. C'est comme si elle ne servait plus à rien. Si les archers étaient restés sur la colline jusqu'au bout. Au moment, donc là, on a les deux armées qui se font face. Et il faut dire que les idolâtres, ils sont beaucoup plus nombreux, comme on l'a dit. ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus armés, beaucoup plus entraînés. Ils ont 200 chevaux alors que les musulmans n'en ont pas. Selon certaines versions, ils en auraient deux. En tous les cas, les idolâtres, sur le plan militaire, dépassent largement les musulmans. Mais sur d'autres plans, les idolâtres sont bien en dessous. D'abord, en termes de foi et de conviction. Les musulmans sont là parfois par conviction, par certitude, sont là pour une cause qu'ils veulent défendre. Et entre la foi en Allah Azza wa Jal l'unique et la foi en Allah en lui associant des idoles, il y a des mondes. Et c'est ces deux armées qui se font face. L'armée de Tawhid, l'armée de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et l'armée de l'idolâtrie. Ensuite, la grande différence aussi qu'il y a, c'est sur les objectifs. Comme on l'a dit, les musulmans sont là pour défendre une cause. Déjà pour défendre eux, pour défendre leur vie, pour défendre leur famille, pour défendre leur liberté de croyance et de conscience. Et par là même, défendre la liberté de croyance et de conscience de tous les autres individus. C'est ça le sujet et l'objet. Hein. Même si nous, on s'engloutit dans les détails, etc., et on essaie de tirer les leçons, mais à la base, le fil conducteur, c'est celui-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il défend la liberté religieuse et la liberté de croyance et de conscience, déjà la leur, et celle de chaque individu. Celle des juifs de Médine, celle des bédouins de Médine, celle des... etc. etc. Taïb. Les idolâtres, ils sont là pourquoi ? Ils sont là d'abord pour se venger de Badr. Mais c'est des histoires de vengeance personnelle. Ce n'est pas une armée qui est là pour dire « on a perdu une bataille » et aujourd'hui, on vient pour gagner cette bataille. Ça, c'est l'idée d'Abu Sufyan, à la rigueur, qui est le chef de l'armée. Mais les autres idolâtres, ils ne s'occupent pas de toute l'armée. Comment on va faire pour battre toute l'armée ? Chaque famille, chaque tribu est venue avec un défi. On est là pour tuer un tel parmi les musulmans. Parce que c'est un tel parmi les musulmans qui a tué mon cousin, qui a tué mon frère, qui a tué... etc., etc. Par exemple, on avait expliqué que Wahshi, ses services avaient été loués par la famille de qui ? La famille de Tu'aymah ibn Adi, qui avait été tué à Badr par Hamza, radiyallahu anhu. Et la famille de Tu'aymah ibn Adi, ils ont promis de libérer Wahshi et de lui offrir son pesant en or s'il tue Hamza. Et donc ils sont là, ils sont omnubilés, obsédés par une chose, par une idée, c'est de tuer Hamza. C'est-à-dire qu'à la rigueur, même s'ils doivent perdre la bataille, s'ils ont tué Hamza, pour eux, ils ont gagné. Il y en a d'autres, comme Safwan ibn Umayya, lui, il est venu pour tuer Bilal, qui a tué son père et son frère. À la rigueur, si toute l'armée des idolâtres doit perdre, ce n'est pas grave, tant que lui, il a réussi à tuer et à se venger en tuant Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu. Et donc, on voit déjà qu'il y a une grande différence dans ça. Quelqu'un qui vient et qui réfléchit, il est où ? Ah, il est là-bas. Il ne regarde pas toute l'armée, où est-ce qu'elle est, comment elle est positionnée. Lui, la seule, c'est lui que je veux, moi. Et quand il l'aura tué, c'est tout. Pour lui, la bataille, elle est finie. J'ai eu ma vengeance. Donc, sans aucun doute, ça fait partir l'armée idolâtre faible. Et il y a aussi ceux qui sont là par intérêt personnel, comme les Ahabish. Les Ahabish, c'est le bras militaire. Ils sont là parce qu'ils sont liés pour être là. Ils ne sont pas là pour une cause. Et ça, c'est combien ? C'est 2000 hommes sur les 3000. Deux tiers de l'armée des idolâtres sont là parce qu'on a loué leur service. C'est une milice armée. On a loué leur service pour qu'ils combattent. Donc, ils ne sont pas là pour défendre une cause. Ils sont là pour avoir un salaire. Et donc, si, même s'ils sont de redoutables combattants, s'ils voient que ça commence à tourner mal, ils ne vont pas attendre longtemps pour voir s'ils vont mourir ou garder la vie. La vie, elle est quand même plus précieuse pour eux. Donc, ça aussi, ça les rend faibles. Non. Et ce qui les rend faibles aussi, c'est qu'il y en a d'autres qui sont là uniquement pour protéger la route commerciale, des caravanes commerciales. Parce qu'ils sont étouffés de ce côté-là à cause des musulmans. Et d'autres sont venus uniquement pour se faire du butin. On a entendu, on va attaquer la ville de Médine, puisqu'à l'origine, c'est de la ville de Médine qu'il s'agit. Et donc, ils viennent pour piller la ville après la bataille et devenir riches. Tout ça nous montre que les grandes différences qu'il y a juste avant la bataille entre l'armée musulmane et l'armée idolâtre, la dernière grande différence, c'est que chez les musulmans, il y a un leader, il y a un chef, très respecté, je dirais même vénéré, admiré. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il dit une chose, tout le monde s'y soumet. Alors que du côté des idolâtres, il y a beaucoup d'histoires de rivalité, même si officiellement c'est Abu Sufyan le chef, il y a beaucoup d'histoires de tribus, de rivalité, etc. Ensuite, le moral. Vous avez les idolâtres qui ont amené avec eux 19 femmes, qui leur chantonnent des poèmes pour galvaniser. De temps en temps, des choses plus ou moins vulgaires. On verra plus tard quand on en parlera. On ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui, on en parlera un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est surtout ça la façon de galvaniser les poètes, les troubadours, ou là, je ne sais pas comment on les appelle, les danseurs, le folklore. Alors qu'en face, il y a les musulmans qui ont kalam Allah, la parole d'Allah Azza wa Jal. Et tout musulman, encore aujourd'hui, l'a kalam Allah pour lui remonter le moral, pour lui donner la force dans son cœur, pour lui donner la détermination. C'est aussi à ça que sert kalam Allah, la parole d'Allah, le Coran. Sauf que les compagnons, ils n'ont pas kalam Allah comme nous. Ils ont kalam Allah à ce moment-là qui est révélé en direct. Et c'est une grande différence avec nous où ce sont des versets qu'on avait déjà appris, qu'on avait déjà entendus. Juste, on se les rappelle à ce moment-là parce qu'on se dit, à cette occasion, c'est de tel verset qu'il faut se rappeler ou tel verset qu'il faut se rappeler. Sauf qu'eux, ils vivent en direct la révélation. Et il y a, on a déjà parlé de ces versets, mais c'est pendant ce moment-là ou en tout cas quelques instants avant que ces versets ont été révélés, comme le verset qui dit « Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun » وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ إِذْ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا. Et lorsque deux groupes parmi vous étaient sur le point de se défaire, de quitter l'armée, c'était qui? C'était la tribu des Bani Salama et la tribu des Bani Haritha. Ils ont failli suivre les hypocrites. وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. Mais Allah est leur allié, Allah est de leur côté. Et donc, puisqu'Allah est leur allié et qu'il est de leur côté, ils sont restés. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Et c'est à Allah que s'en remettent les croyants. Ce verset, quand il est révélé en direct à ces croyants, qui voient qu'en face d'eux, il y a des ennemis qui sont enragés, qui sont assoiffés de vengeance et qui sont trois fois plus nombreux qu'eux, et ils entendent Allah qui leur parle en direct et qui leur dit, rappelez-vous juste tout à l'heure lorsque les deux groupes parmi vous, les Bani Salama et les Bani Haritha, ont voulu quitter le groupe, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'Allah est avec eux. Allah est en train de leur rappeler qu'il est avec eux. Wallahu waliyuhuma. Et ensuite il leur dit, wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Et c'est vers Allah que s'en remettent les croyants. Les nains, à ce moment-là, ce sont des êtres humains, les compagnons. Ils doivent se poser des questions. Trois fois plus nombreux. 200 cavaliers. La montagne derrière nous. Les ennemis devant nous. Comment on va faire? Et Allah, à ce moment-là, il leur révèle ses paroles. Wallahu waliyuhuma. Allah, il est l'allié de ceux qui étaient sur le point de faillir et de partir. Alors, qu'en est-il du restant de l'armée des musulmans qui, eux, sont restés déterminés dans le fait de rester jusqu'au bout avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si Allah azza wa jal dit à propos de ceux qui sont restés mais qui étaient sur le point de partir, Allah est leur allié, qu'en est-il de ceux qui n'ont même pas eu à l'idée de partir, mais qui se posent quand même des questions, qui peuvent être traversés par des doutes? Et Allah leur rappelle et leur dit, c'est vers Allah que s'en remettent les croyants. N'ayez crainte. Et pour preuve, le verset d'après, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ إِذْ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Et rappelez-vous, lorsqu'Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez les plus faibles, vous étiez trois fois moins nombreux, trois fois moins armés, trois fois moins préparés, tout ce que vous voulez. et vous avez gagné. Allah vous a donné la victoire. C'est arrivé juste là il y a un an. Alors pourquoi pas aujourd'hui ? Mais ce verset, ce n'est pas comme nous, on prend un verset qui a été révélé dans le contexte de Uhud, on va se le remettre pour nous. Non, ce verset, il est révélé pour eux. Et ils le découvrent en direct. Sans aucun doute que ça, ça fait bondir, ça fait fléchir la foi du croyant. Et ça lui donne encore plus de force spirituelle et de détermination pour le combat. Et il y avait aussi une divergence dans l'armée des musulmans, comme on l'avait expliqué, et Allah, il leur révèle quoi ? Pour faire cesser cette divergence, parce que les musulmans doivent être unis pour cette bataille. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Qu'avez-vous, sous-entendu, qu'avez-vous à diverger, à discuter entre vous, à diverger au sujet de... Qu'avez-vous à être deux groupes au sujet des hypocrites ? Qu'avez-vous à vous diviser en deux opinions au sujet des hypocrites ? Parce qu'il y en a qui disaient, commençons par les hypocrites. Attaquons-les, eux, qui ont osé nous trahir. Ce ne sont pas des musulmans. Et les autres, ils disaient, parmi eux, il y a sans doute des musulmans qui ont peur, et nous ne nous occupons pas d'eux. Et donc Allah, il leur dit, qu'avez-vous ? Oubliez-les. Aturiduna an tahdou man adalla Allah ? Voulez-vous guider ceux qu'Allah a égarés ? Oubliez-les. Qu'ils ne soient pas un objet de dissension entre vous. C'est ça qu'Allah Azza wa Jalla leur dit. Et donc, sans aucun doute, il faut prendre aussi cet aspect, cet angle-là spirituel du côté des croyants, des musulmans. Ensuite, la prochaine étape, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc la chronologie que je choisis ici de suivre, c'est celle qui apparaît. On n'a pas un livre qui nous dit de manière authentique, avec une chaîne de narration authentique, il s'est passé telle étape, ensuite telle étape, de manière sûre, on a la chronologie et l'ordre. On a plein de choses qui se sont passées, et ensuite, en fonction de tel livre, tel livre, tel livre, telle narration, on essaye d'en déduire une chronologie. Vous pourrez peut-être trouver une chronologie différente chez d'autres qui racontent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans des ouvrages, mais en tout cas, celle qui m'apparaît à moi la plus cohérente, c'est celle-ci, c'est que la prochaine étape, c'est Afwan, Abu Dujana, le compagnon Abu Dujana. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il s'adresse à son armée et il prend son épée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il brandit son épée pour galvaniser les troupes. Et il leur dit, « Man ya'khudhu hadha as-sayf bihaqqi ?» Qui aura le courage de saisir, de prendre cette épée, mais avec son droit. Cette épée, on ne peut pas la prendre comme ça. Elle a des droits. Si tu la prends, cette épée, elle aura des droits sur toi. Qui d'entre vous est capable de prendre cette épée, c'est-à-dire l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la prendre, mais avec ce qu'elle exige, comme devoir qui t'incomberont pour cette épée. Et ça, ce récit d'Abu Dujana, il nous est raconté dans plusieurs narrations différentes, certaines faibles, certaines juste au-dessus de faibles. Ala kulli hal, de manière générale, les spécialistes du hadith jugent l'histoire d'Abu Dujana, de manière générale et globale, comme sahih, fiable, authentique. Ensuite, sur les détails, étant donné que ça dépend des chaînes de narration, une qui a été affaiblie, l'autre qui n'a pas forcément été affaiblie, là, c'est là où ils divergent. Mais de manière générale, cette histoire, elle est jugée fiable. En particulier cette phrase où le professeur Hassan m'a dit, parce que celle-ci, elle est reportée dans toutes les versions, « Man ya'khudhu hadha as-sayfa bihaqqihi » Qui va prendre cette épée, mais avec son droit. Et Zubayr ibn al-Awwam qui nous raconte l'histoire, le compagnon Zubayr ibn al-Awwam, qui a été nommé à la tête de la moitié de l'armée du côté de la colline du Mont des Archers. Il dit, « فَقُمْتُ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ » Chauffe, Zubayr ibn al-Awwam, il dit, « Moi, je me suis levé et j'ai dit, « Moi, ô messager d'Allah, moi, je la prends avec son droit. » Il ne sait pas encore c'est quoi son droit. Si le Nous, on était là, qu'on nous dit, qu'est-ce qui prend l'épée ? Moi, je la veux bien, mais avec son droit. Ah. À la rigueur, c'est quoi son droit ? Et après, je vais te dire si je prends ou je ne prends pas. Zubayr ibn al-Awwam, faqultu ana ya Rasulallah. Moi, je la prends. Mais tu ne sais pas c'est quoi son droit ? Tu vas être capable ou pas d'appliquer ? Moi, je la prends. Peu importe le droit qu'elle a sur moi, je le ferai. Ajib. Il dit, fa'arada anni Rasulallah. Et le prophète s'est détourné de moi. Subhanallah. Yani, même si toi tu la veux, ce n'est pas pour toi. Il dit, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, et donc le professeur Hassan m'a dit ensuite, من يأخذ هذا السيف بحقه, qui va prendre cette épée avec son droit. Zubayr ibn al-Awwam, peut-être il se dit à ce moment-là, le professeur Hassan m'a peut-être pas, il m'a peut-être pas entendu la première fois. Donc il dit, فقمت فقلت أنا يا رسول الله. Je me suis relevé encore une fois et j'ai dit, moi au messager d'Allah, moi je la prends. Il dit, fa'arada anni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de moi. Donc ici, yani, il comprend que ce n'est pas pour lui. Et une troisième fois, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, man ya'khudhu hadha as-sayfa bihaqqihi. Qui va prendre cette épée avec son droit? Dans d'autres versions, alors ici on nous dit, dans cette version toujours, faqama Abu Dujana. فقال انا اخذه بحقه يا رسول الله وما حقه. Moi au messager d'Allah, je la prends cette épée avec son droit. Je dis oui, je m'engage. Maintenant dis-moi quel est son droit. Dans d'autres versions on nous dit فقام اليه رجال فامسك عنهم حتى قام اليه ابو دجانه. Dans une autre version on nous dit فقام اليه رجال. Et des, plusieurs hommes, pas que Zubayr ibn al-Awwam, se sont levés pour avoir l'épée. فَأَمْسَكَ عَنْهُمْ. Mais le professeur Hassan l'a bien tenu pour pas qu'ils la prennent eux. حَتَّى قَامَ إِلَيْهِ أَبُو دُجَانَ. Jusqu'à ce que ce soit le compagnon Abu Dujana qui se lève pour cette épée. Abu Dujana, c'est un surnom. Son vrai nom, c'est Simak ibn Kharasha radiyallahu anhu. Simak ibn Kharasha radiyallahu anhu.
N'aham.
Non. Ce qu'on a expliqué, c'est que Zubayr ibn al-Awwam est du côté de la colline, mais pas sur la colline du mont des archers. Par contre, celui qui est sur la colline, le mont des archers, c'est Abdullah ibn Jubayr. Puisqu'on avait expliqué, pour ceux qui étaient là, ça c'était juste un rappel qu'on faisait aujourd'hui, donc on n'est pas entré dans le détail. Pour ceux qui étaient là, le professeur Sami, il a coupé son armée en deux quand il est arrivé. Donc il n'a encore mis personne sur le mont des archers. Il a mis du côté de la colline, mais pas sur la colline, au pied de la colline, Zubayr ibn al-Awwam avec la moitié de l'armée. Et de l'autre côté, il a mis Al-Mundhir ibn Amr. Et ensuite, lorsque la cavalerie va arriver derrière le mont des archers, là, il va envoyer sur la colline des archers, sur le mont des archers, Abdullah ibn Jubayr. Non. Et aussi, Allah jazakoum bi khair, barakallahu fi kakhi, pour avoir ce rappel, quand il y a des questions, il est mieux, Inch'Allah, d'attendre à la fin. Comme ça, on répondra aux questions, Inch'Allah, pour essayer de faire le cours de manière sans interruption. Et Inch'Allah, il n'y a pas de problème pour les questions, mais à la fin, bi'ibnillah ta'ala. Ala kulli hal, Abu Dujana saisit l'épée. Il saisit le sabre et il dit, « Ana akhudhuhu bihaqqihi ya Rasulallah wa ma haqquh. » Moi, je le prends avec son droit au messager d'Allah, mais quel est son droit ? Quel est son droit ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire Alla taqtula bihi musliman wa alla tuqirra bihi an kafir. Que tu ne tues aucun musulman avec cette épée. Tu ne fasses aucun tort à aucun musulman avec cette épée. Ça, c'est son premier droit. Et son dernier droit, qu'aucun idolâtre qui est devant toi ne t'échappe avec cette épée. Alla tuqirra bihi an kafir. Aïwa. Et à ce moment-là, Abu Dujana, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort le bandeau rouge. Aïsabatahu al-Hamra. Abu Dujana était connu pour ça. Les compagnons disaient, Ah, s'il sort le bandeau rouge, c'est fini. Il sort un bandeau rouge qu'il met et qu'il attache autour de son front, autour de sa tête. Et les compagnons disaient, كَانَ إِذَا أَخْرَجَهَا عَرَفْنَا أَنَّهُ سَيُقَاتِلْ. Quand il sortait le bandeau rouge, on savait qu'il allait combattre. Ah, d'habitude, il combattait. Mais là, Zahma, il va vraiment... Ah, là, c'est fini. Là. Le vrai Abu Dujana, il est là, il est sorti. Et donc, il met le bandeau rouge. Et il commence à se pavaner devant l'armée et à se montrer devant les idolâtres. Il fait une démarche orgueilleuse, selon certaines versions sur une monture, selon d'autres à pied, à la il fait une certaine démarche orgueilleuse. Il se pavane, yani, parce qu'il a l'épée, il a son épée, et en plus, il a l'épée du professeur Hassan, mais il la montre. Yani, comme diraient les enfants d'aujourd'hui, il crâne. Naham. Vous allez dire, ouais, mais c'est pas abusé. Mais justement, on a des versions qui nous disent que le professeur Hassan, parce que tout le monde le regarde, que ce soit les musulmans, qu'est-ce qu'il fait ? Que ce soit les idolâtres. Le professeur Hassan, il dit, ce genre de démarche, cette façon de se pavaner, Allah le déteste, sauf dans ce genre de situation. C'est interdit de faire ça, de se vanter comme ça dans la démarche, sauf dans ce genre de situation. Parce que cette situation, elle vaut que tu sois dans l'orgueil et la fierté. Non. Et il va même chantonner des rimes qu'on retient de lui, Abu Dujana, radiallahu anhu, à ce moment-là, et il va dire « Ana alladhi ahadani khalili »« Ana alladhi ahadani khalili » »« Wa nahnu bis-safhi 'inda an-nakhili » C'est moi à qui mon confident, mon ami proche, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est moi à qui mon ami proche m'a donné l'engagement en lui donnant l'épée. « Wa nahnu bis-safhi 'inda an-nakhili » Alors que nous étions au pied, « As-safh » c'est le pied de la montagne. Ils étaient au pied de la montagne de Uhud. « As-safh » en arabe, ça veut dire quand on est au pied d'une montagne, on appelle ça « nahnu bis-safh » on est au pied de la montagne. « Wa nahnu bis-safhi 'inda an-nakhili » On était, nous, au pied de la montagne, là où il y a les palmiers. Alla aqoum ad-dahr fi al-kayyuli wa adrib bi sayfillah wa ar-rasuli. Alla aqoum ad-dahr fi al-kayyuli. Et que il dit, et le professeur m'a donné l'engagement et j'ai pris cet engagement, alla aqoum ad-dahr, que jamais je ne me lèverai. Jamais je ne ferai partie. Ad-dahr, yani tout le temps, jamais. Je ne ferai partie de al-kayyul. Al-kayyul, c'est quoi ? Ça peut vouloir dire les lâches, le lâche, ou ça peut vouloir dire lorsqu'on est dans des rangs, les rangs de derrière. Et ici, les deux sens sont bons. Et moi, je ne serai jamais derrière et je ne serai jamais à lâche. J'ai pris cet engagement, moi. Et donc, et là, il est devant, il se pavane et il dit ça. Non. « Wa adriba bi sayfillahi wa rasuli » Et j'ai aussi pris l'engagement que je frapperai avec l'épée d'Allah et de son messager. Et tout ça, évidemment, avec les rimes et en respectant le rythme de la poésie arabe, puisqu'il y a des rythmes à respecter. C'est pas rire, tu viens, tu choisis des rimes et tu... Il y a des règles à respecter. « Ilm al-arud » La science de l'arud, on appelle ça comme ça, la science de la poésie, c'est un océan. Et justement, les rythmes de la poésie, on les appelle comment en arabe ? Bahr. Il y a 16 rythmes différents qui ont été surnommés par Ahmad ibn Khalil al-Farahidi, c'est lui qui les a surnommés. Et il dit Bahr al-Hazaj, Bahr al-Rajaz, Bahr al-Mujtath, Bahr al-Kada. La mer, l'océan de Rajaz. L'océan de ça veut dire quoi ? C'est pour parler des rythmes de la poésie. Mais attention, il te prévient, c'est l'océan. Si tu ne sais pas nager, va, retourne là-bas au petit bassin et regarde tout ça de loin et fais des signes de la main. Ne t'y aventure pas si tu n'as pas compris que c'était un océan et une mer. Non. Ala kulli hal, Abu Dujana, radiyallahu anhu, il se pavane donc et le professeur Sam le lui autorise et il le précise. Parce que le professeur Sam a interdit l'orgueil. Mais il le précise pour qu'il n'y ait pas de confusion. Allah Azza wa Jal déteste ce genre de démarche orgueilleuse, sauf dans ce genre de situation. Ensuite, va-t-il y avoir la confrontation directe entre les deux armées, ou il va y avoir des duels, comme il y en a eu au début de la bataille de Badr? Pour avoir la réponse à cette question, il faudra revenir la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.